Vous écoutez On lit pour vous.
Tour d'horizon des grands télescopes de demain. Un texte paru le 14 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Tour d'horizon des futurs télescopes qui traqueront exoplanètes et galaxies lointaines et qui pourraient transformer notre vision de l'univers. En astronomie, la taille et la précision des télescopes augmentent constamment. Plusieurs télescopes géants sont actuellement en construction sur Terre, comme le ELT au Chili, qui aura une surface 16 fois plus importante que celle des plus gros télescopes actuels. D'autres seront envoyés d'ici 2030 dans l'espace, comme le Nancy Grace Rowan de la NASA. En observant le cosmos sous différentes longueurs d'onde, ils promettent d'ouvrir de nouvelles fenêtres sur l'univers. Après le lancement du télescope spatial James Webb en 2021 et la mise en service toute récente de l'observatoire Vera C. Rubin au Chili, qui photographie l'intégralité du ciel austral tous les trois jours, on pourrait penser que la communauté scientifique est rassasiée, mais il n'en est rien. En effet, en matière d'astronomie, chaque avancée technologique permet de dévoiler un nouveau pan de l'univers. Plus les télescopes sont grands et performants, plus ils révèlent d'objets célestes toujours plus éloignés et de plus faible luminosité, et puis ils nous permettent de comprendre les structures du cosmos. Or, on a intérêt à s'y prendre d'avance, car plusieurs décennies peuvent s'écouler entre la conception d'un télescope et sa concrétisation. Il a fallu, par exemple, 30 ans et 10 milliards de dollars à James Webb pour voir le jour. Cela tombe bien. Plusieurs grands projets sont en préparation et tous vont sonder le cosmos sous un angle bien précis. L'œil humain ne peut voir que la lumière visible. Or, le spectre électromagnétique est plus large et l'univers nous envoie plein de messages différents sur toutes ses longueurs d'onde, explique l'astrophysicienne Nathalie Ouellette, directrice adjointe de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. Parmi ces signaux invisibles, les ondes radio transportent des informations provenant de pulsars, d'étoiles à neutrons ou de nuages de gaz interstellaires. Les rayons gamma et les rayons X renseignent sur les phénomènes les plus violents de l'univers, comme la présence de trous noirs ou des explosions d'étoiles. Les micro-ondes portent la trace du Big Bang lui-même. Et l'infrarouge permet de percer les nuages de poussière où naissent les étoiles et les planètes. Ce n'est donc pas un caprice de vouloir différents télescopes. Ils ont des fonctions et des visions différentes. Si on observe seulement certaines ondes électromagnétiques, on regarde l'univers avec un champ de vision très limité, ajoute l'astrophysicienne. Voici donc une liste, loin d'être exhaustive, de certains projets phares qui ouvriront une nouvelle fenêtre sur l'univers. GMT et ELT, les plus grands yeux du monde. Étape de fabrication. La structure est en construction. Date d'entrée en service, en 2028 pour l'ELT et vers 2030 pour le GMT. Sur les hauteurs du désert d'Atacama, au Chili, deux colosses se préparent à scruter le ciel. L'Extremely Large Telescope, ELT, un projet européen, et le Giant Magellan Telescope, GMT, américain, seront polyvalents. Ils serviront à observer autant les planètes de notre système solaire que les galaxies formées peu après le Big Bang, dans la lumière visible comme dans l'infrarouge. Mais c'est surtout la taille de leur miroir. 39 mètres de diamètre pour l'ELT et 25 mètres pour le GMT qui les distinguent des instruments précédents. L'ELT aura ainsi une surface 16 fois plus importante que celle des plus gros télescopes actuels. Il sera de loin le plus gros télescope du monde. L'avantage d'un gros télescope, explique Nicolas Cohen, c'est qu'il collecte plus de lumière. Cela permet de voir des objets lointains invisibles autrement, mais aussi d'obtenir une meilleure résolution. L'ELT est en cours de construction au Chili. Son dôme abritera les instruments et les miroirs qui devraient être installés en 2027. Construire des miroirs de cette taille représente un défi technologique immense. Aucun des deux ne sera constitué d'une seule pièce de verre qui aurait été impossible à fabriquer. On mise plutôt sur un assemblage de petits miroirs et sur l'optique adaptative. Ce système consiste à corriger en permanence les fluctuations de la lumière dues aux turbulences de l'atmosphère terrestre grâce à un ou à plusieurs miroirs secondaires très fins et déformables qui compensent en temps réel ces distorsions au micron près, en bougeant plusieurs centaines de fois par seconde. En 2023, des membres du Mirror Lab de l'Université de l'Arizona ont placé des morceaux de verre dans un moule pour fabriquer chaque étale du GMT. Pour l'ELT, l'équipe de l'Observatoire européen austral, ESO, a opté pour une mosaïque de 798 miroirs hexagonaux dont les mouvements seront parfaitement synchronisés. De son côté, le GMT utilisera sept miroirs géants disposés comme les pétales d'une fleur. Sans surprise, c'est la fabrication de ces miroirs qui a pris le plus de temps. Pour le GMT, par exemple, le polissage d'un seul miroir prend près de 2 ans. Du côté des instruments, les deux géants seront dotés de plusieurs caméras et spectrographes qui disséqueront la lumière reçue. L'Université de Montréal participe notamment à la conception du spectrographe ANDES pour l'ELT, qui pourra analyser l'atmosphère des exoplanètes. On espère étudier le spectre électromagnétique des atmosphères d'exoplanètes avec beaucoup plus de précision, possiblement la clé pour enfin confirmer ou infirmer des biosignatures, explique Nathalie Ouellet. Square Kilometre Array, un radiotélescope sur 2 continents. Étape de fabrication terminée, il reste à connecter les 2 structures. Date d'entrée en service, 2028-2029. Pour entendre les murmures radio venus du cosmos, il faut d'immenses surfaces collectrices, à l'instar de FAST, une coupole de 500 mètres de diamètre construite en Chine il y a une dizaine d'années. Un autre de ces projets colossaux prend forme au cœur des déserts d'Afrique du Sud et d'Australie. Le Square Kilometre Array, SKA, littéralement réseau d'un kilomètre carré, sera le plus puissant radiotélescope jamais construit. Cet observatoire international n'est pas un télescope unique, mais un gigantesque réseau d'antennes et de paraboles fonctionnant ensemble. En Afrique du Sud, près de 200 grandes antennes seront capables de capter les ondes radio de fréquences intermédiaires. En Australie-Occidentale, plus de 130 000 petites antennes, ressemblant à une forêt de sapins métalliques, seront destinées aux basses fréquences radio. Ces instruments fonctionneront comme un seul télescope géant grâce à une technique appelée interférométrie. Le concept, recombiner la lumière de plusieurs télescopes éloignés les uns des autres, qui agissent alors de concert comme un unique télescope géant. une fois reliés par des milliers de kilomètres de fibres optiques et synchronisés par des logiciels extrêmement précis, les deux instruments du SKA auront une surface combinée équivalent à une coupole unique d'un kilomètre carré. Cela leur permettra de détecter des signaux radio extrêmement faibles, bien plus lointains que ceux observés par les instruments actuels. Les astronomes utiliseront surtout SKA pour retrouver la trace des premières étoiles et galaxies et pour cartographier la répartition de la matière noire. Nancy Grace Roman est plateau, à la recherche d'exoplanètes rocheuses. Étape de fabrication terminée. Date d'entrée en service, dès septembre 2026, Roman, hiver 2027, plateau. Depuis la découverte des premières exoplanètes dans les années 1990, les astronomes rêvent de trouver une véritable sœur de la Terre dans un autre système solaire, un type de planète qui demeure encore largement introuvable. Deux télescopes spatiaux, l'Américain Nancy Grace Roman et l'Européen Plateau, tenteront de relever le défi, chacun à sa manière. Envoyés à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, ils se consacreront à l'observation de planètes rocheuses. Le premier à être lancé pourrait être le télescope Nancy Grace Roman, nommé en l'honneur de la première femme à avoir occupé le poste d'astronome en chef à la NASA. Début 2026, le satellite Plateau a passé des tests de vibration à l'Agence spatiale européenne en vue de son lancement. Il dispose d'un champ de vision 100 fois plus large que celui du télescope Hubble. Une seule image pourra ainsi couvrir d'immenses portions du ciel, dans le visible comme dans l'infrarouge. Selon l'astrophysicienne Nathalie Ouellet, ce télescope agira comme un puissant instrument de recensement. Il va faire des cartographies systématiques du ciel et produire des catalogues de données accessibles au public. Doté d'un miroir de 2,4 mètres de diamètre, le télescope utilisera aussi un tour de passe-passe, la micro-lentille gravitationnelle. Lorsqu'un objet massif courbe l'espace-temps, il peut amplifier brièvement la lumière d'une étoile située en arrière-plan. Une planète passant devant une étoile lointaine, autre que la sienne, peut alors trahir sa présence par un léger pic de luminosité. Cette méthode permettra même de repérer des planètes errantes dérivant seules dans la galaxie. Le Nancy Grace Roman sera également doté d'un coronographe de pointe capable de bloquer la lumière d'une étoile afin d'être moins ébloui et donc de révéler les planètes qui l'entourent. L'instrument pourrait permettre pour la première fois d'observer directement des exoplanètes géantes gazeuses semblables à Jupiter. Novembre 2025, l'équipe technique travaillait à l'assemblage du télescope Nancy Grace Roman. Plateau. Planetary Transits and Oscillations of Stars utilisera pour sa part des méthodes plus classiques pour détecter des planètes autour d'autres étoiles, mais avec un raffinement inédit. Dirigé par l'Agence spatiale européenne, la mission observera la lumière visible de plus de 200 000 étoiles de la Voie lactée à la recherche d'une légère baisse de luminosité, celle qui survient lorsqu'une planète passe devant son étoile. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit. Mais plutôt que d'utiliser un unique grand miroir, Plateau sera équipé de 26 caméras fonctionnantes simultanément. Ensemble, elles surveilleront d'immenses portions du ciel. Vous écoutez « Tour d'horizon des grands télescopes de demain », un texte paru le 14 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Habitable Worlds Observatory, le prochain méga-projet. Étape de fabrication, conception du projet. Date d'entrée en service, année 2040. Si trouver une planète sœur de la Terre représente un défi, réussir à l'observer relève aujourd'hui du rêve, du moins jusqu'au prochain télescope spatial phare de la NASA, le Habitable Worlds Observatory, HWO. L'objectif de ce mégaprojet, dont l'ampleur pourrait rivaliser avec celle du télescope James Webb, sera de capter des images directes de Terre lointaine. Il fonctionnera dans les longueurs d'onde ultraviolettes, la lumière visible et l'infrarouge, pour détecter les biosignatures atmosphériques telles que celles de l'oxygène, de l'ozone et du méthane. Pour accomplir cet exploit, HWO devrait repousser plusieurs limites technologiques. Les scientifiques envisagent un télescope doté d'un miroir segmenté d'au moins 6 mètres, comparable à celui du télescope James Webb ou plus grand. Plusieurs missions à venir serviront de banc d'essai pour ces technologies, la véritable difficulté résidant dans l'immense contraste entre la luminosité d'une étoile et celle d'une planète rocheuse orbitant autour. Pour pouvoir isoler l'image de la planète, le télescope devra atteindre une stabilité inégalée. Après avoir pointé l'instrument vers une nouvelle étoile, il faudra attendre plusieurs heures avant de commencer les observations afin que la totalité des vibrations cesse pour atteindre cette stabilité extrême, explique Nicolas Cowan. Pour l'instant, HWO n'existe que sur le papier, les technologies requises restant à inventer. Comme pour James Webb avant lui, des scientifiques pourraient passer leur carrière entière à travailler sur cet instrument, en espérant que leur effort sera couronné par la découverte d'un autre petit point bleu dans l'univers. Castor, un remplaçant de Hubble 100% canadien? Étape de fabrication, demande de financement. Date d'entrée en service, SO. Le célèbre télescope spatial Hubble, approchant de la fin de sa carrière, les astronomes réfléchissent à ce qui pourrait prendre la relève pour observer l'univers, notamment dans l'ultraviolet et la lumière bleue, deux domaines particulièrement importants pour étudier les phénomènes les plus énergétiques de l'univers et non couverts par les autres télescopes. Parmi les candidats figure Castor, pour Cosmological Advanced Survey Telescope for Optical and UV Research, un télescope spatial doté d'un miroir d'un mètre de diamètre et proposé par le Canada. Castor, c'est l'équivalent de Hubble, mais avec un champ de vue 100 fois plus grand, explique l'astrophysicienne Nathalie Ouellet. Le télescope pourrait capturer en une seule image une zone aussi large que la pleine Lune, une tâche qui nécessiterait environ 100 images avec Hubble. Cette capacité de balayage rapide serait particulièrement utile pour détecter des phénomènes imprévisibles, comme des explosions stellaires. On ne sait pas toujours où pointer pour les voir, donc il faut cartographier le ciel de façon régulière, explique la chercheuse. Avec un budget estimé entre 300 et 400 millions de dollars, Castor pourrait démontrer la capacité du Canada à diriger une mission spatiale. On a déjà eu beaucoup de succès avec de plus petites missions, rappelle Nathalie Ouellet, mais montrer qu'on est capable de mener un projet comme celui-là serait extrêmement important pour le leadership scientifique du Canada. Télescope lunaire. Quand la cible devient l'observatrice. Étape de fabrication, projet à l'étude. Date d'entrée en service, SO. Au-delà des télescopes terrestres ou spatiaux, un des concepts qui font rêver les astronomes consiste à faire de la Lune le laboratoire suprême pour scruter l'univers. Et ce n'est pas qu'un rêve. Des projets américains et chinois envisagent d'installer des instruments d'observation sur notre satellite. Le principal atout de la Lune, elle combine en un seul lieu les avantages des meilleurs télescopes spatiaux et terrestres sans les inconvénients. D'abord, comme pour les télescopes spatiaux, son environnement dépourvu d'atmosphère et parsemé de cratères plongés dans l'ombre en permanence offre des températures glaciales idéales pour des miroirs observant l'infrarouge lointain et constitue un havre de paix pour capter les signaux cosmiques loin des interférences terrestres. Et comme les télescopes terrestres, l'immense surface disponible permet la construction de gros télescopes stables. Des projets de radiotélescopes ont été proposés tant par les États-Unis que par la Chine. Le projet américain Lunar Crater Radio Telescope prévoit un filet grillagé suspendu dans un cratère, tandis que la Chine pousse le concept plus loin avec un réseau de 7200 antennes sur 30 km. Mais on est encore loin de pouvoir relever les défis techniques de tels projets et de lever les budgets nécessaires. Avant tout, il faudra lancer de nouvelles missions habitées sur la Lune, ce qui n'aura pas lieu avant Artemis 4 en 2028, du côté américain, et 2030 au plus tôt pour la Chine. Le privé entre en scène. Les investissements croissants d'entreprises privées dans le spatial concernent aussi les télescopes. Début 2026, Eric Schmidt, ancien patron de Google, et son épouse Wendy ont annoncé le financement de 4 télescopes de pointe, 3 au sol et un quatrième nommé Lazuli, qui a pour ambition de remplacer Hubble dans l'espace. Pour Nicolas Cohen, professeur de physique et de sciences de la Terre et des planètes à l'Université McGill, ces nouveaux modèles pourraient transformer l'astronomie. De plus en plus de compagnies privées commencent à développer des télescopes spatiaux, pour lesquels les universités acceptent de payer afin de réserver du temps d'utilisation. La contribution peut être financière ou se faire en offrant des instruments de mesure, explique-t-il. Dans d'autres cas, ce sont des philanthropes qui lancent un appel à des idées scientifiques et financent un télescope qui peut coûter quelques centaines de millions de dollars. Mais cette évolution suscite aussi certaines inquiétudes. Pour Nathalie Ouellet, dépendre trop fortement de financements privés pourrait fragiliser la planification scientifique à long terme. Je ne voudrais pas que les gouvernements disent que le privé peut financer ça. Ces missions se développent sur des décennies. Si on commence à dépendre des caprices des milliardaires, ça deviendra inquiétant, d'autant que les grandes missions qu'on voit une fois par génération, comme James Webb, coûteront toujours plusieurs milliards. C'était « Tour d'horizon des grands télescopes de demain », un texte paru le 14 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Les essais nucléaires ont créé des matériaux étranges, un texte de la rédaction paru le 8 avril 2022 dans Québec Science. Un matériau rare, la trinitite, a été découvert à l'endroit où la première bombe atomique a explosé. Il possède une organisation moléculaire qu'on pensait quasi impossible. Quand tu penses aux cristaux, tu imagines sans doute des pierres précieuses de mille couleurs. Mais les cristaux, c'est aussi le sel que tu mets dans ta bouffe, ou les flocons de neige. Leur point commun ? Une organisation très régulière des molécules qui forment un motif qui se répète un très grand nombre de fois à l'image d'un plancher composé d'une multitude de carreaux, tous de la même forme. Mais il existe aussi des quasi-cristaux. Ce sont des matériaux composés d'éléments organisés et symétriques, mais dont la répétition n'est pas régulière. Pour reprendre l'image du carrelage, c'est comme si on avait des carreaux de différentes formes, des carrés, des triangles, des losanges, et que ces carreaux s'agençaient pour former des motifs complexes, structurés. Tous les quasi-cristaux connus sont artificiels, c'est-à-dire qu'ils ont été créés par l'humain. Il y a une exception. L'écrasement de la météorite Katyrka, en Sibérie, a permis la création de quasi-cristaux naturels. À la suite de leur découverte, une équipe de géologues, de physiciens et de minéralogistes a alors essayé de les reproduire en laboratoire. En simulant des conditions de choc extrême, ils ont réussi à en créer de nouveaux. Les chercheurs ont alors réfléchi à d'autres phénomènes qui pouvaient réunir des conditions similaires de choc à haute pression, les explosions atomiques. Ainsi, une expédition composée d'États-Unis et d'Italiens a été lancée pour fouiller le site du premier essai nucléaire au milieu du désert du Nouveau-Mexique, États-Unis, afin de trouver des quasi-cristaux. Et ils en ont trouvé un. En 1945, l'explosion de la bombe a formé une pierre rouge baptisée trinitite, du nom de l'essai Trinity. Ce quasi-cristal est un mélange de la fusion du sable et d'autres composés comme les fils de cuivre présents dans les appareils d'enregistrement installés sur place. Il aura fallu presque 80 ans pour trouver cette pierre et observer sa structure. Les scientifiques qui l'ont analysée ne peuvent pas encore entièrement l'expliquer. Ces recherches suggèrent d'ailleurs que d'autres quasi-cristaux pourraient se cacher sur la planète, qu'ils soient naturels ou issus des activités humaines. Les trouver et les étudier permettrait de mieux les comprendre et de percer un peu plus leur mystère. C'était « Les essais nucléaires ont créé des matériaux étranges », un texte de la rédaction paru le 8 avril 2022 dans « Québec Science ».